C'est vraiment mon histoire. J'espère que c'est la vôtre aussi, le chant qu'on vient chanter. Là. Parce que si ce n'est pas encore votre histoire, là, je vous invite à rentrer dans cette histoire-là, qui est l'histoire de Dieu. Pas notre histoire, mais c'est l'histoire de Dieu. Et avant d'aller de plonger dans la parole de Dieu, on va se courber. Père, encore une fois, nous sommes devant toi pour attendre, t'entendre parler. On ne veut pas m'entendre parler, moi, mais on veut t'entendre parler par ton esprit. Que tu puisses utiliser ta parole qui va être prêchée. Pas mes exemples, mais ta parole. C'est toi qui vas nous la faire comprendre, qui va nous la faire saisir, qu'on puisse être transformé à ton image de plus en plus. Amen. Eh bien, j'espère que ça va bien ce matin. Et je vous ai déjà raconté mon histoire. Hein? C'est vrai, je reviens souvent là-dessus, là. Mais c'est mon histoire. Fait que je ne peux pas vous en conter un autre. Mais vous avez déjà dit qu'à partir de l'âge de 2 ans et demi, c'est mon grand-père qui m'a élevé. Et là, je me souviens que ça n'a pas arrivé souvent. Je vous le dis, là, ça n'a pas arrivé souvent. Mais s'il m'arrivait de lui désobéir, j'étais craintif après d'aller le voir. Je savais qu'il n'aimait pas ça. Je savais qu'il avait fait de la peine. Puis même à l'école, ensuite à l'école, si, là on va mettre ça au pluriel, si un des professeurs nous demandait d'aller rencontrer le directeur, on savait pourquoi. Parce qu'on n'avait pas oublié aux règles. On y allait, mais de reculons, puis on rentrait dans le bureau avec crainte, là. En tout cas, dans ce temps-là, il y avait une crainte respectueuse d'autorité qu'on ne retrouve plus ou qu'on retrouve rarement aujourd'hui. Mais aussi, je me souviens qu'après ma conversion, lorsque je réalisais que j'avais péché, j'avais aussi la crainte d'entrer dans la présence de Dieu, d'aller, parce qu'il me semblait qu'il m'attendait avec... Puis je crois qu'on est, je n'étais pas le seul non plus à avoir vécu ce genre de crainte-là. Puis ce qu'on veut voir aussi dans les Écritures, c'est que les lecteurs de la lettre aux Hébreux étaient eux aussi dans la même situation. Et c'est pourquoi l'auteur va leur donner quelques encouragements pratiques à ce sujet au chapitre 10, dans les versets 19 à 39. On va lire dans Hébreux 10, à partir du verset 19. On lit ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos purs. Retenons fermement la profession de notre espérance par celui qui a fait la promesse, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel péché pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobes et aux afflictions, et à l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On peut voir que le premier encouragement que l'auteur donne à ses lecteurs, même s'il était craintif, c'est que maintenant, l'entrée dans le sanctuaire leur est accessible. Au verset 19, il écrit « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » C'est que là, l'auteur, il veut tout d'abord rassurer ses lecteurs, puis leur faire comprendre qu'ils ont été pardonnés et que leur dette a été payée par le sacrifice de Jésus qui leur donne maintenant un libre accès dans la présence de Dieu. Parce que ceux qui ont lu l'Ancien Testament, en particulier les premiers livres, on a vu que lorsque Moïse a construit le tabernacle dans le désert, et que même plus tard, ce tabernacle-là s'est transformé, ils ont rebâti le temple, il y avait une partie qui était complètement à part, complètement mise à part dans ce temple-là ou dans cette tente-là. Une partie qui était complètement séparée des autres parties, et elle était séparée pour être consacrée uniquement à Dieu. Et c'est un endroit qui se nommait le Saint des Saints, ou le lieu très saint, qui était aussi appelé le sanctuaire. Et c'est dans cette partie-là qu'il avait déposé le coffre de l'Alliance, qui contenait les deux tables de pierre gravées du doigt de Dieu, qui contenaient les 10 commandements. C'est là aussi qu'il y avait un vase qui contenait la manne qu'il avait recueillie. Il y avait aussi le bâton d'Aaron. Mais c'est aussi à cet endroit que Dieu manifestait sa présence sur le corps de l'Alliance entre les deux chérubins protecteurs. Et dans cet endroit-là, il n'y avait personne qui avait le droit d'y entrer. Personne qui avait le droit d'y pénétrer. Parce qu'il y avait un voile épais, un genre de rideau qui séparait le Saint des Saints du lieu saint. Et seulement que le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par année. Une fois par année, mais ça, après avoir offert un sacrifice pour ses propres péchés et ceux du peuple, il pouvait entrer dans le lieu très saint avec le sang de ce sacrifice-là. Mais toute autre personne qui aurait tenté d'y entrer, le faisait au risque de sa vie. Parce que l'homme, il est pécheur. Puis il se trouve à être complètement séparé de Dieu. Que Dieu, lui, est saint. Il n'a aucun péché. Il est complètement à part de toute autre personne. Il ne peut donc pas rester en vie puis être dans la présence de Dieu. Et pour dire que tous ont péché, tous, sans exception. Chacun de nous ici, on a péché. On est privé d'avoir une relation avec Dieu. On est privé de la gloire de Dieu. Moïse était un des personnages les plus proches de Dieu dans l'Ancien Testament. Puis lorsque Moïse est monté sur la montagne pour aller recueillir les lois, il avait demandé à Dieu la possibilité de voir sa gloire. Et Dieu lui a répondu qu'il ne pouvait pas voir sa face et vivre. Impossible. C'est pour ça qu'il l'a caché dans un rocher et qu'il est passé de dos. Pour que Moïse puisse voir un semblant de gloire, mais il n'a pas vu sa gloire. Mais l'auteur ici, il veut faire prendre conscience à ses lecteurs qu'ils ont maintenant accès à la présence de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'offrir un sacrifice. Ils n'ont pas besoin de se cacher dans un rocher. Ils ont accès à la présence de Dieu. Ils ont accès à ce sanctuaire. C'est-à-dire qu'il est permis d'entrer dans la présence de Dieu très saint grâce au sacrifice de Jésus. C'est lui, le sacrifice de Jésus, qui nous donne accès à ce lieu-là. Et cet accès, nous dit les Écritures, leur est offert par la route nouvelle, vivante, qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, son corps qui était sacrifié pour nous. Et le mot qui a été traduit par nouvelle, dans la route nouvelle, est utilisé qu'une fois dans le Nouveau Testament. Puis elle a comme sens premier de fraîchement abattu ou récemment mis à mort. Ainsi, Jésus est devenu la route nouvelle par son sacrifice qui venait d'être abattu, qui venait d'être mis à mort pour nous. Et par sa mort, il a payé la dette de nos péchés. Lorsque Dieu nous voit, il ne nous voit pas comme un pécheur, mais il nous voit en Jésus-Christ. Et le seul moyen d'entrer dans ce sanctuaire-là, dans l'Ancien Testament, c'était de passer au-delà du voile, de franchir le voile qui nous donne accès à Dieu. De même que la chair de Jésus, c'est-à-dire son corps, était en quelque sorte un voile qui nous empêchait de voir ou qui empêchait les gens à ce moment-là quand il était sur terre, de voir sa divinité. Mais maintenant que Jésus a offert son propre corps, c'est que le voile est disparu. Et le verset 21 nous dit, « Et de plus, nous avons un souverain sacrificateur qui a été établi dans la maison de Dieu. » Et puisque son Fils, par son Fils, c'est-à-dire Dieu nous a ouvert le chemin et que le voile est enlevé afin que nous puissions entrer en relation personnelle avec lui. L'auteur nous dit, approchons-nous donc d'un cœur sincère dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Paul nous dit aussi dans Tite 3:5, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il dit aussi dans Éphésiens 5:26, afin de la sanctifier, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire c'est nous, ça, afin de nous sanctifier. Après l'avoir purifié par l'eau de la parole. Et Pierre, lui, dans sa première lettre au chapitre 3, verset 21, nous dit, c'était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Mais cette image d'une eau pure était aussi présente dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Ézéchiel 36, 25, Dieu affirme « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » C'est par son esprit que l'Éternel fait sur nous cette aspersion d'eau pure. Et la raison, c'est que Christ nous a ouvert le chemin, une fois pour toutes. Plus besoin de nous tenir à distance avec crainte. On a accès dans sa présence pour nous approcher de lui. Mais faisons-le avec assurance, puisque tout ça a été payé pour nous à un grand prix. Christ, où Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, son Fils. Donc, il avait été de toute éternité en relation intime avec lui. Il l'a sacrifié, il a été pour un temps séparé de lui, il a goûté, son Fils a goûté l'enfer pour lui, il a goûté la séparation d'avec lui, ce qui nous était réservé pour l'éternité. Mais là, on pourrait se demander pourquoi l'auteur a besoin d'encourager ses lecteurs d'entrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, parce qu'il s'adresse à des croyants. Là. Fait que pourquoi il est obligé ou qu'il est encouragé, il veut encourager ses lecteurs à le faire? Mais probablement qu'eux aussi, ils étaient comme moi un peu. Il y avait une crainte d'entrer dans la présence de Dieu à cause de mes fautes, à cause de mes manquements. Et c'est sans doute pour ça qu'eux aussi hésitaient à entrer dans la présence de Dieu. Et pourtant, c'est ce que Dieu désire que nous fassions, d'entrer dans sa présence, même si on a mal fait. Mais on entre dans sa présence avec un cœur repentant, avec une assurance, un cœur repentant dans le sanctuaire pour lui confesser nos fautes et recevoir son pardon. Il est là pour nous secourir dans tous nos besoins, puis ça à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Lui, il ne dort ni ne veille. Il n'est pas limité par le temps. Il est constamment à notre écoute. C'est-à-dire, puis c'est le sang de Christ, par sa mort sur la croix, qui nous donne ce libre accès. Par son sacrifice à la croix, il a payé chacune de nos fautes. Ce n'est pas une nouvelle faute là, qui va empêcher Dieu de nous accueillir. Ils sont toutes là, ils étaient toutes là, sur ses épaules, lorsque Dieu s'est détourné de lui. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur nous dit au verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est sur sa fidélité qu'on doit se baser, non sur notre fidélité à nous, parce qu'on le sait qu'une journée on est fidèle, l'autre journée on n'est pas fidèle, mais lui est fidèle. Et celui ou celle qui tient ferme dans sa profession ne peut pas le faire de ses propres forces. Mais cela indique simplement la preuve que sa profession était sincère et vraie. Puis pour tenir ferme aussi dans cette profession, nous avons besoin d'encouragement. Et là encore là, c'est la raison pour laquelle l'auteur nous dit au verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Parce que malheureusement, tant que nous serons dans notre chair, nous allons avoir besoin d'encouragement les uns envers les autres. Encouragement à veiller les uns sur les autres pour nous exciter aux bonnes œuvres. Et c'est ensemble qu'on va y arriver, qu'on va être capable de continuer à persévérer. Et c'est vraiment sur la fidélité de Dieu que nous devons compter. Mais ici, l'auteur ne demande pas simplement aux dirigeants, il ne demande pas simplement à Gaétan, puis à moi, puis aux membres du conseil de veiller. Il demande à toute l'Assemblée de veiller les uns sur les autres. Le Seigneur ne nous a pas regroupés en Église pour rien. Et une autre chose, veiller les uns sur les autres, là, ça ne veut pas dire de faire la police, là, de se surveiller. C'est plutôt de s'encourager, de veiller sur ceux qui sont sur le point de tomber, ceux qui sont plus faibles, puis aller les relever, pas les rachever, mais les relever, les prendre dans nos bras, puis les encourager avec la parole de Dieu, les encourager avec les promesses de Dieu. Mais pour être capable de faire ça, de s'encourager, ça prend absolument, au sein de l'Assemblée, une relation les uns envers les autres. C'est aussi pour ça, pour cette raison-là, qu'au verset 25, l'auteur encourage ses lecteurs à ne pas abandonner leur Assemblée. Et là, il ne parle pas de quelqu'un qui, pour une raison quelconque, a changé d'Assemblée. Parce que selon les circonstances, on peut être appelé soit pour le travail, soit parce que le Seigneur nous appelle dans une autre assemblée. Il peut nous appeler ailleurs. Il peut nous appeler comme missionnaire ailleurs. Il peut nous appeler... Il y a toutes sortes de raisons que lui est ici. Mais ici, l'auteur parle vraiment d'un abandon, pas d'un changement. Abandonner. C'est vraiment abandonner. Abandonner nos sœurs qu'on a fréquentées depuis certains temps. Et on ne peut pas désirer vivre dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, sans éprouver le besoin de se retrouver en communion les uns avec les autres. Il faut dire que le Seigneur, il nous aime. Le Seigneur m'aime, mais il aime autant les autres aussi. Puis, lui, son désir, c'est que nous aimions les uns les autres. Mais comment faire pour être unis si on est chacun chez soi? Impossible. C'est le seul moyen de rester unis, c'est de rester ensemble. Impossible de rester unis si on est chacun chez soi. Impossible de continuer à apprendre à connaître Dieu. Parce que Dieu veut se faire connaître à travers mon frère, à travers ma sœur. Et son deuxième encouragement que l'auteur donne à ses lecteurs, là, c'est de prendre au sérieux les conséquences du péché. C'est un verset peut-être qui en a fait frémir plusieurs. Au verset 26, il dit, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. » Et le péché dont il est question ici est fait volontairement. C'est d'abandonner. C'est ça le péché. Parce que si on suit le contexte, on regarde le verset 26, il suit le verset 25. Hein? Puis le verset 25, il dit de ne pas abandonner notre assemblée. Et là, on regarde au verset 25, car, hein? Car, si nous péchons. Fait que la logique, il est après nous donner un cours, comment interpréter la Bible, es-tu correct ça? Car, Abandonnez pas votre assemblée, mais exhortons-nous réciproquement, d'autant plus que vient le jour. Car, si nous péchons volontairement, mais c'est quoi le péché volontaire? C'est le résultat qui découle d'avoir abandonné l'assemblée. C'est d'abandonner plus que l'assemblée. C'est d'abandonner notre espérance. C'est d'abandonner la foi. Parce qu'après avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous rejetons cette vérité, il n'en reste plus de sacrifice pour le péché. Aucun autre sacrifice n'a été prévu pour remplacer le sacrifice parfait de Christ. Parce qu'il faut dire que, comme on l'a vu depuis le début, les lecteurs de la lettre aux Hébreux là, sont des personnes qui, à cause de leur foi, ont été persécutées par leurs compatriotes. Puis là, ils sont tentés d'abandonner leur foi parce qu'ils en ont assez, là, de se faire enlever leurs biens, de se faire mettre en prison. Puis là, écoute, là, la religion qu'on pratiquait avant, c'est une religion qui était venue de Dieu. On n'était pas persécutés. Mais ça ne tente de retourner. Là. Ils voulaient retourner au judaïsme, retourner. Et dans le judaïsme, c'est quoi qu'ils faisaient? Les sacrifices d'animaux. Fait qu'il n'y a plus de sacrifices. Parce que les sacrifices d'animaux ont été remplacés par le sacrifice parfait de Jésus. Mais si je le mets de côté, ce sacrifice-là, puis je retourne à mon ancienne vie, mais il n'y en a plus. Et le sujet est sensiblement le même qui avait été traité au chapitre 6 aussi. Le péché volontaire dont on parle ici, ce n'est pas un péché quelconque. Ce n'est pas un péché que quelqu'un est tombé dans le péché. Là. Parce que si vous êtes honnête avec moi, j'aimerais ça que vous... Non, vous ne ferez pas lever la main. Mais dans votre cœur, qui a déjà péché volontairement? Hein? Ça veut dire ce qu'on est toutes faites. Si c'est ça. À moins qu'on n'ait pas la même compréhension du péché. Non, le péché volontaire ici est commis par quelqu'un qui a entendu l'Évangile, qui a fait profession de foi, qui a fréquenté pour un certain temps les milieux chrétiens, mais qui, par la suite, il s'est retiré puis a renoncé complètement à la vérité. Là, je ne parle pas, là, il y en a des exceptions, là. Je ne veux pas rentrer dans les exceptions, mais on parle de qu'est-ce qui est là, là. Mais surtout, il est demeuré complètement indifférent à l'Évangile. Il n'a pas seulement abandonné l'Église, il a abandonné Christ lui-même. Et cet abandon-là se fait après avoir connu la vérité au sujet de Christ et de son œuvre et l'avoir tourné le dos. Et ça, par expérience, je peux vous dire que j'en ai rencontré dernièrement dans ma propre famille. C'est malheureux. Mais il faut dire non plus, moi en tout cas c'est ce que je crois, que même avec qu'est-ce qu'on voit là, c'est pas désespéré. Parce que si la personne a rejeté le seul sacrifice, bien, il n'y en a plus d'autres sacrifices. Mais si un jour cette personne-là accepte ce sacrifice-là, bien, c'est lui qui va la sauver. Elle va être sauvée pareil. C'est ça, en tout cas, moi, qui me donne l'espérance pour mes proches, qu'ils reviennent au vrai sacrifice, au vrai, à l'Évangile. Et comme je viens de dire, cet abandon-là se fait après avoir connu la vérité au sujet de Christ et de son œuvre, puis avoir tourné le dos, d'avoir retourné à son ancien style de vie, qu'il soit religieux ou pas. Il y a donc à ce moment-là plus de sacrifice pour le péché de cette personne, puisque le seul sacrifice de Dieu que Dieu accepte, cette personne-là l'a rejeté. Et après avoir reçu la connaissance de la vérité, il a décidé de demeurer volontairement dans le péché. Et si cette personne-là demeure volontairement jusqu'à sa mort, eh bien, ça va, le Seigneur va suivre son cours. C'est la raison encore là pour laquelle l'auteur nous dit qu'il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais ce qui lui reste, c'est une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et là, l'auteur va donner un exemple tiré de l'Ancien Testament pour essayer de leur faire comprendre un peu dans quelle situation ils se trouvent. Il leur dit au verset 28, « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Et là, il faut dire malheureusement que nous tous ici, on a au moins violé un des commandements de Moïse. On est condamnés. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et puisque la personne en question a péché volontairement, il a mis de côté le seul moyen de salut que lui offrait Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de Christ à la croix, qui payait entièrement sa dette. Et tout ça, il l'a rejeté après avoir connu la vérité. Le verset 29 pose une question. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Fait que ce péché-là, c'est d'outrager l'Esprit de la grâce, de fouler aux pieds le Fils de Dieu. C'est ça, ce péché-là. Sachant aussi que la loi de Moïse a été donnée pour nous conduire à Christ. Refuser, c'est mépriser la grâce que Dieu nous offre. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et maintenant, l'auteur, pour les encourager, il va leur rappeler le souvenir de leur conversion, des conséquences de leur conversion, puis aussi de leur persévérance à faire le bien. Il leur dit au verset 32, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » C'est comme un peu au chapitre 6, c'est-à-dire verset 4. Leur conversion est décrite comme une grande révélation pour les autres. C'est-à-dire que la vérité leur a été clairement démontrée. Et dans leur cas, il s'en est suivi une grande persécution de la part de leurs compatriotes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même, les chrétiens. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui vont durer toujours, qui vous attendent. On pourrait dire que leur témoignage et leur persévérance démontraient vraiment qu'ils appartenaient à Dieu. Mais l'auteur veut les encourager en leur disant ça. Rappelez-vous, là, vous avez été persécutés, on vous a enlevé vos biens, puis vous avez persévéré. Fait qu'après avoir subi et enduré toutes ces épreuves, l'auteur leur demande de s'encourager à persévérer dans le but de ne pas avoir subi toutes ces choses en vain, puis surtout de ne pas tourner le dos à la grâce de Dieu. Et là, l'auteur continue d'encourager ses lecteurs au verset 35 en leur disant, « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Non seulement elle leur demande de ne pas abandonner leur assemblée, mais aussi leur assurance. Mais là, on pourrait se demander encore, mais c'est quoi ça, cette assurance-là que les chrétiens possèdent? Qui possédait, mais que nous, on possède aussi. C'est quoi cette assurance-là qu'on possède? Eh bien, c'est une confiance. Et souvent, on va dire, est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Mais est-ce que tu crois Dieu dans sa parole? Ce n'est pas juste de croire que Dieu existe, là. Est-ce que tu crois ce qu'il a dit? Est-ce que tu crois dans ses promesses, dans sa fidélité? C'est une confiance, comme il va le mentionner au chapitre 11, là. Que la foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Parce qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. Parce que si on le verrait, ça ne serait plus de la foi. Moi, je crois fermement qu'il y a une table en avant de moi. Vous la voyez? C'est pas de la foi, ça. Elle est là. Mais de croire que Dieu existe, que Dieu n'est pas mort, c'est par la foi. C'est même une certitude, comme l'a dit Jean dans sa première lettre au chapitre 2, verset 28, que si nous demeurons en lui au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. C'est une assurance aussi qui, selon Paul, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est tout un encouragement, ça, pour nous aider à persévérer. Parce que je ne me base pas sur mes propres forces, sur mes acquis. Je me base sur les promesses de Dieu. Je suis assuré qu'il le dit. Et là, c'est la raison pour laquelle nous devons nous encourager les uns vers les autres. Avec confiance en celui qui nous aime. Parce que j'ai cette assurance. Vous avez cette assurance. Mais si un jour, il nous arrive un pépin, à un ou aux autres ou à moi. Mais c'est celui qui va garder cette assurance, qui va encourager celui-là que sa foi faiblit. Là. C'est à ça que ça sert l'Église aussi. Et comme l'a dit l'auteur, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et ça va être toute une lutte continuellement pour chacun de nous jusqu'à temps qu'on y aille rejoindre notre Sauveur. Et c'est pour ça, c'est pour la raison que l'autel nous encourage à ne pas abandonner et à persévérer dans la foi qu'il faudra s'encourager à ne pas abandonner et à persévérer. Mais c'est Christ qui va le faire à travers nous. Parce que Christ habite en chacun de nous, son esprit habite en chacun de nous, c'est lui qui va le faire en chacun de nous. Et encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et pourtant, l'auteur, lui, est persuadé que lui et ses lecteurs ne sont pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il connaît ses lecteurs. Il sait dans quelle situation ils sont. Il sait à quel point ils sont tentés, mais il est quand même persuadé qu'ils ont la foi pour sauver leur âme. Et le Seigneur connaissait très bien les faiblesses de chacun de nous aussi. Et c'est pour ça qu'il savait que nous aurions besoin les uns des autres pour que nous soyons encouragés à ne pas abandonner, puisque comme nous avons vu, il y a une grande rémunération qui nous attend, une grande récompense. Nous sommes héritiers avec Christ, co-héritiers de Dieu. Tout ce que Dieu possède, mais il possède tout, nous appartient. Il nous attend pour entrer en possession de notre héritage. Et nous avons encore doublement raison de nous encourager parce que dès maintenant, on n'a pas à attendre d'être mort pour entrer dans la présence de Dieu. Dès maintenant, là, le Seigneur nous donne un libre accès en tout temps, en toutes circonstances, dans le sanctuaire céleste, là où se trouve sa présence. Et encourageons-nous à persévérer dans cette assurance, puisque nous avançons de plus en plus, puisque plus que nous avançons de plus en plus vers son retour, dans le temps, notre Sauveur est proche et notre récompense est grande. Restons fidèles à notre assemblée et encourageons-nous à persévérer. Il y a des grandes choses qui nous attendent, comme on vient de dire. Mais comme l'auteur vient de le dire, moi aussi je suis persuadé que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et moi, mon plus grand désir, c'est que nous, tous ici, là, mais plus que ça, parce qu'avant qu'on parte, il va y en avoir d'autres, il va se rajouter, là. Mais que nous tous ici, aujourd'hui, on se retrouve ensemble dans les lieux célestes, à l'avènement de notre Seigneur. Fait que, posons-nous chacun cette question-là. Est-ce que j'ai vraiment, comme on a chanté ce matin, c'est mon histoire? Est-ce que c'est notre histoire?